dans son témoignage, Charles a parlé de l'importance du travail des missionnaires. Eh bien, ça tombe bien parce que une bonne partie du Nouveau Testament a été écrit par non seulement un spécialiste de la mission, mais un missionnaire lui-même, l'apôtre Paul. Et je vous invite dès à présent à ouvrir vos Bibles au livre des Philippiens au chapitre 4. Pour ceux qui ont des Bibles blanches, ce sera la page 772. Alors, ce livre biblique s'appelle Philippiens, car à l'origine, il s'agissait d'une lettre que l'apôtre Paul avait écrit avec les chrétiens de l'église de la ville de Philippe comme destinataire. Donc, c'était destiné à l'église de Philippe, d'où le nom de cette lettre, Philippiens. La ville de Philippe est située à l'est de la Grèce, au bord de la mer Égée, pas très très loin de la Bulgarie actuelle. Et Paul est celui qui a fondé cette église, mais Paul est reparti et a conservé des liens étroits avec les chrétiens de cette église. Au premier chapitre, donc un petit peu avant le passage que nous allons lire, au premier chapitre, verset 7, nous apprenons que lorsque Paul a écrit cette lettre, il se trouvait en prison. Et pas en prison parce qu'il avait fait quelque chose de mal, mais en prison à cause de sa foi en Jésus-Christ. Et alors qu'il était là en prison, les chrétiens de l'église de Philippe lui ont fait parvenir une aide financière par l'intermédiaire d'un certain Épaphrodite, un des leurs. On voit cela au deuxième chapitre, verset 25. Et c'est à lui, cet homme, que Paul a remis la lettre qui est destinée aux Philippiens. Je commencerai ma lecture au chapitre 4 et au verset 10. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez enfin pu renouveler l'expression de votre intérêt pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait dans ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout, en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie. Paul souligne ici qu'ultimement, il pourrait se passer de l'aide des Philippiens. Et pourquoi cela ? Bien, parce que la réussite même de son ministère ne repose pas sur des moyens humains, mais sur Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui fortifie Paul et qui lui accorde les capacités, les ressources nécessaires à l'accomplissement de son travail missionnaire. Je peux tout par celui qui me fortifie. Voilà ce qu'il dit. Fortifié par Jésus, tout est possible. Fortifié par Jésus, tout peut être supporté. Ultimement, un missionnaire n'a pas besoin de l'aide des hommes parce que c'est Dieu lui-même qui prend soin de lui. Dieu envoie et Dieu prend soin. Alors, on pourrait très bien se dire dans ce cas-là, puisque c'est Dieu qui s'occupe de prendre soin de ceux qu'il a lui-même envoyés en mission, eh bien, on n'est pas concerné. Est-ce que les chrétiens de Philippe ont eu tort d'apporter leur soutien à Paul? Eh bien, bien sûr que non. Et voilà ce que Paul écrit, verset 14. « Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. » C'est Dieu qui pourvoit à tous mes besoins, a-t-il dit juste avant. Mais cependant, vous avez bien fait. Et vous avez bien fait de quoi? Vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. La détresse, voilà la situation dans laquelle Paul se trouvait avant de recevoir l'aide de l'église de Philippe. Alors bien sûr, grâce à Dieu qui le fortifiait, Paul pouvait tout supporter, et en particulier trois choses qu'il mentionne. La pauvreté, la faim, et plusieurs de ses besoins non satisfaits. Grâce au Seigneur qui les fortifie, les véritables missionnaires sont capables de tout supporter. Mais est-il pour autant normal de laisser dans la détresse ceux qui ont répondu à l'appel de Dieu afin de rentrer à leur service? Pensons-nous devant Dieu qu'il est juste de les laisser vivre dans la pauvreté? Pensons-nous devant Dieu qu'il est juste qu'ils connaissent la faim? Pensons-nous devant Dieu qu'il est juste que plusieurs de leurs besoins vitaux ne soient pas satisfaits, comme par exemple s'habiller, se loger, se soigner? Après tout, on peut très bien dire ça. Après tout, je veux dire, ils n'avaient qu'à pas partir. Ils avaient qu'à rester à la maison, comme nous. Voilà, nous on n'est pas partis, pourquoi ils sont partis? Dieu prendra soin d'eux. Heureusement, les Philippiens ne se sont pas désintéressés au travail missionnaire de Paul. Et ils ont eu raison, bien sûr, de le soutenir. Et ils ont cherché, par tous les moyens, à pourvoir à ses besoins, qui étaient grands. Verset 14, « Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. » Et ce que le texte nous dit un peu plus loin, c'est que non seulement c'était bien fait ponctuellement de venir en aide à Paul qui se trouvait en prison, mais ce n'est pas la première fois qu'ils lui sont venus en aide. Versets 15 et 16, « Vous le savez vous-même, Philippiens, au début de la prédication de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune église n'a pris part avec moi à un tel échange de contributions. Vous avez été les seuls à le faire. À Thessalonique, déjà, et à plus d'une reprise, vous m'avez envoyé de quoi pourvoir à mes besoins. » Les Philippiens ont apporté leur soutien à Paul, et Paul remercie non pas des individus, mais l'Église tout entière. C'est l'Église, en tant que communauté locale de frères et de sœurs en Christ, qui a apporté son soutien à Paul. Une Église, un groupe d'hommes et de femmes, désireux d'honorer Dieu par leurs offrandes. C'est une Église, visiblement, qui est particulièrement touchée par l'Esprit de Dieu, parce que cette période qui correspond au tout début de l'annonce de l'Évangile, c'est la seule, Paul nous dit, c'est la seule Église qui a apporté son soutien financier à Paul. Et ce qui est remarquable, c'est que donc, ce soutien financier n'est pas seulement le fruit de quelques individus généreux, ça c'est déjà très bien, mais d'une Église tout entière. Et nous le savons par expérience, quand une Église tout entière doit se mettre d'accord pour quelque chose, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie qu'il a fallu nous intéresser. Nous en avons parlé. Nous avons prié. Nous avons demandé à ce que Dieu nous conduise. Et nous sommes engagés. C'est de ça dont Paul bénéficie. Paul n'était pas seul, même s'il était tout seul sur place. Paul n'était en réalité pas seul, parce qu'une église tout entière se tenait à ses côtés. Le soutien de Paul était un soutien collectif qui correspondait à une décision collective. Et le fruit d'un tel résultat montre que l'Église s'est intéressée à son travail missionnaire. Donc que ces hommes et ces femmes ont prié pour lui, qu'ils ont cherché la volonté de Dieu, à tel point qu'ils sont arrivés ensemble à la même décision, celle de le soutenir et de lui faire parvenir l'aide dont il avait besoin. L'intérêt, non pas pour la mission en règle générale, mais pour un travail missionnaire particulier, ainsi que l'engagement fidèle dans la prière et les dons qui vont avec, sont ce qui caractérise un soutien missionnaire efficace. Et c'est de cela dont Paul a bénéficié dans son ministère de la part des Philippiens et tout au long de son ministère. Malgré les moyens de communication très restreints de l'époque, pendant des années, l'Église a suivi Paul. Au verset 16, Paul écrit qu'à l'époque où il se trouvait à Thessalonique, alors Thessalonique, c'est environ 300 kilomètres de Philippe, eh bien les Philippiens ont eu connaissance de différents besoins de Paul et y ont répondu à plusieurs reprises. En 2 Corinthiens, au chapitre 11, verset 9, on découvre que pendant que Paul se trouvait à Corinthe, Donc là, on était déjà à 600 kilomètres de Philippe. Il a à nouveau pu compter sur leur soutien. Paul rappelle que, alors qu'il était en grande difficulté, il a pu bénéficier de l'aide des chrétiens de la Macédoine, c'est-à-dire de la région où se trouve l'église de Philippe. Et ce groupe, un groupe de Macédoniens, sont venus jusqu'à lui pour lui apporter leur soutien. Et au moment où Paul écrit cette lettre, alors qu'il est en prison, l'église de Philippe, une nouvelle fois, se tient à ses côtés. Un soutien financier, bien sûr, mais pas seulement. Puisque Paul n'a plus la liberté de circuler, il est en prison, eh bien, ils envoient Épaphrodite à son service. Et c'est en servant justement Paul que Épaphrodite va tomber gravement malade et même frôler la mort. On découvre ça dans la lettre des Philippiens. Et c'est pour cette raison que, bien que Paul apprécie énormément son service, il préfère que Épaphrodite rentre chez lui, à l'église de Philippe, et il le charge de porter la lettre qu'il aura écrite. Philippiens 2, 25. « J'ai cependant estimé nécessaire de vous renvoyer mon frère Épaphrodite, mon collaborateur et mon compagnon de combat, que vous aviez envoyé afin de pourvoir à mes besoins. » Le véritable soutien missionnaire passe nécessairement par un intérêt, un suivi, une implication forte de l'Église qui est ainsi en mesure d'apporter un soutien adapté aux besoins de la mission. Et ce type de soutien ne produit pas seulement du fruit pour le missionnaire ou la mission, mais c'est l'Église tout entière, l'Église elle-même, qui va récolter du fruit de son souci et de son implication pour la mission. Versets 17 à 20. « Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je désire qu'un fruit abondant soit porté sur votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé en recevant d'Épaphrodite ce que vous m'avez envoyé comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, conformément à sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je me réjouis personnellement qu'en Assemblée Générale, nous avons décidé de reverser à la mission 10%, la dîme, pour prendre un terme biblique, de nos ressources financières de l'année dernière. Alors ça paraît un peu fou, insensé même, de reverser une telle somme, parce qu'en effet, nos offrandes de l'année dernière ont été à peine suffisantes pour couvrir nos frais de fonctionnement. Et puis, ce matin, c'était le troisième dimanche du mois, je ne sais pas si vous avez vu la feuille jaune, eh bien, on constate que depuis le début de l'année, nous avons déjà pris un retard important sur le montant qui est nécessaire à couvrir nos propres besoins. Mais si jamais nous attendons que tous nos besoins soient satisfaits, eh bien, à moins d'être très riches, eh bien, nous ne donnerons jamais rien parce que nous trouverons toujours un certain nombre de nos besoins insatisfaits. Et la société dans laquelle nous vivons ne cesse de mettre devant nos yeux des tas de besoins qui sont insatisfaits. Nous avons besoin de meilleurs moyens de transport, de meilleurs moyens de communication, de meilleurs moyens multimédia, de meilleures couvertures de santé. Enfin, on a toujours des besoins insatisfaits. Si nous attendons que tous nos besoins soient satisfaits, nous ne donnerons jamais rien. En tant qu'individu, nous ne donnerons jamais rien à l'Église. Et en tant qu'Église, nous ne donnerons jamais rien à la mission. Alors, il n'est pas question de se dépouiller totalement, mais simplement de reverser à l'œuvre de Dieu, autre que notre Église locale, une partie de ce que le Seigneur nous a lui-même accordé. Et je dois être franc avec vous, si je regarde seulement le point financier, moi je suis inquiet et je me demande comment nos propres besoins vont être couverts. Mais plutôt que de regarder à nos propres besoins et être inquiet de l'avenir, je veux considérer le fruit que vont produire nos offrandes les offrandes que nous allons faire à différentes missions, que nous allons bientôt décider de ça ensemble. Et moi, je me réjouis également à l'avance du fruit, des fruits même, que notre Église va récolter de notre implication auprès de la mission. Le verset 17 parle d'un fruit abondant, d'un grand nombre de fruits pour l'Église qui soutient la mission. Je suis convaincu que si jamais en tant qu'Église, nous nous intéressons réellement à la mission, parce que des fois on peut faire ça un peu légèrement, hein, voilà, on a bonne conscience. Je parle d'un intérêt réel, un intérêt qui nous implique personnellement par un suivi, un soutien qui passe par nos prières et un désir d'accompagner ceux qui sont en mission. Mais je suis convaincu que le Seigneur bénira cela. Parce que le Seigneur bénit ce qui est conforme à sa volonté. Le Seigneur honore ceux qui lui font confiance. Et le fruit que nous récolterons, ce sera le meilleur des fruits. C'est-à-dire un fruit spirituel, un fruit qui viendra du Seigneur. Le Seigneur nous demande de lui faire confiance pour satisfaire nos propres besoins. Verset 19, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Notre Dieu dit qu'il pourvoira aux besoins de son Église et même qu'il va manifester sa gloire par ce moyen-là. Dieu peut très bien susciter de nouveaux donateurs ou encourager les personnes à augmenter leurs dons. Dieu peut utiliser n'importe quel autre moyen pour permettre à son Église, à notre Église de Villefranche, de couvrir ses propres besoins. Je vois quelques personnes qui sourient, mais n'empêche, depuis des années, c'est ce que nous vivons, je veux dire. Il y a des donateurs, des gens qui ont eu à cœur de donner pour cette Église. C'est pas un... Voilà, on peut se dire, mais le Seigneur pourvoira, mais nous devons voir ça comme un fruit spirituel et compter que le Seigneur renouvellera cela. Au cours des prochains mois, c'est ce que nous allons faire cette année, hein, on en a parlé dans l'Assemblée Générale, nous allons découvrir et nous intéresser à diverses missions qui œuvrent dans divers domaines. Alors, ce matin, Christophe nous a présenté le travail du sel. On va également peut-être s'intéresser à des missions qui viennent en aide aux chrétiens persécutés, à des missions qui soutiennent l'évangélisation ou l'édification. Nous allons prier pour ces missions et pour les missionnaires qui sont partis, également pour les personnes concernées. Et puis nous allons, ça nous ferons ça plus tard, c'est pas aujourd'hui, nous allons décider ensemble comment répartir entre ces œuvres chrétiennes la somme que nous avons décidé de mettre de côté pour la mission. Songez dès maintenant à la joie que vont éprouver ceux et celles qui sont dans le besoin et qui vont recevoir cette aide que nous allons leur envoyer. Songez également à la joie du Seigneur en entendant les prières de reconnaissance, le témoignage qu'on a vu là sur le Togo. Ces hommes et ces femmes remercient le Seigneur de ce que le Seigneur fait dans leur situation. Songez à la joie du Seigneur lorsqu'il va entendre ses prières de reconnaissance. Songez également à la joie du Seigneur de voir son Église de Villefranche ne pas simplement s'occuper de nos propres besoins, mais aussi des besoins de l'ensemble du corps de Christ. Le verset 18 dit que cela fait plaisir au Seigneur, que cela lui est agréable. Et songez à la joie également du Seigneur de voir que nous allons lui faire confiance sur la manière dont il va satisfaire nos propres besoins. La joie, voilà une des conséquences de notre implication pour la mission. Je vous invite à prier. Seigneur, nous sommes les premiers bénéficiaires de ce que, avant nous, des hommes et des femmes se sont levés pour partir en mission. Ils sont partis au loin, ou ils sont restés là où ils se trouvaient, mais ils ont eu à cœur de s'investir pour toi, pour te faire connaître, pour prendre soin, pour nourrir, faire grandir. Eh bien, nous sommes les bénéficiaires de ceux qui nous ont précédés. Nous voulons nous-mêmes, Seigneur, nous impliquer personnellement dans ta mission, pour être à l'écoute de ce que tu veux nous montrer. Et au cours de ces prochains mois, peut-être que tu nous conduiras en tant que communauté à à nous investir dans, auprès de tel ou tel endroit, pour que nous puissions vraiment marquer notre proximité, un intérêt et notre soutien pour tes enfants qui ont répondu à ton appel. Et nous voulons te remettre même le monde tout entier, ce monde qui a tellement besoin de toi. Ce monde a besoin d'ouvriers, mais ce monde aussi a besoin d'entendre parler de toi. Et ce monde a besoin aussi de cœurs qui s'humilient devant toi. Parce que malheureusement, s'il y a autant de souffrance, c'est que bien des hommes et des femmes sont rebelles à toi et font les choses à leur propre manière, y compris même du mal, pour satisfaire leurs propres besoins. Nous voulons, Seigneur, soutenir ce qui est juste et bon devant toi. Nous voulons soutenir la mission, nous voulons vivre pour toi, nous voulons te glorifier. Et nous attendons à toi pour que tu manifestes ta gloire, que tu montres que tu es un Dieu agissant, un Dieu qui transforme les cœurs, qui touche les cœurs et qui intervient. Amen.